Bonjour et bienvenue. L'humour suisse existe, nous l'avons rencontré. Oui, on a parfois, il est vrai, un complexe d'infériorité qui nous pousse à penser que nous n'avons pas beaucoup d'humour ou que nous ne savons pas l'exporter. Eh bien, dans nos archives du rire, nous avons mille et une preuves du contraire. Ceux que vous allez entendre aujourd'hui ne sont pas tous de notre époque. Certains sont même vraiment oubliés dans les archives. Mais ils ont tous ce don incroyable, celui de faire rire. Ceux qui sont dans cette émission sont une petite pointe de l'iceberg, mais ils représentent bien ce large éventail de cet humour qui est le nôtre, soigné parfois comme des horloges et signé grâce à notre accent qui fait rire, mais qui touche chez nous comme ailleurs. Et voilà les Putsch, trio neuchâtelois issu de la revue de Cuche et Barbeza. Noël Antonini, Carlos Enriquez et Christophe Bugnon qui jouent les rôles de trois vieux qui ne vieilliront jamais. Maurice, Fernand et Ambroise vont faire un joli parcours de la revue à la Comédie de Paris en passant par la piste du Cirque Kni, avec un humour parfois bienveillant mais aussi décapant.
Bonjour les auditeurs, chers pères d'oreilles.
Alors, grand voyageur, c'est le moment du grand départ, hein?
Oui, dis donc, Maurice, t'es toujours pas parti? Parce qu'il y a le taxi qui t'attend dans la cour, et le compteur tourne alors, hein?
Oh, ben, le taxi partira quand j'aurai décidé de partir, voilà, quand c'est qui partira, ce foutu taxi. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur n'est pas content de partir en voyage, peut-être? Si, monsieur, je suis très content de partir à Las Vegas, moi, monsieur. Non. Oui. Ah non, excuse-moi, Maurice, mais je te connais depuis assez d'années pour voir que là, t'es pas sincère. Il y a un truc qui te tracasse, toi. Monsieur. Hein? Je suis un petit peu ennuyé, voilà.
Alors.
Et on peut savoir pourquoi? C'est à cause de Raymond. Mais qu'est-ce qu'il a de nouveau fait, ce con?
Cette espèce d'empêcheur de voyager en rond.
Mais rien! Il est mort, voilà.
Les archives du rire.
Le succès des Putsch est assez immédiat auprès du public et l'accueil est aussi agréable du côté de la presse et des professionnels.
Non, ça se passe bien, on est content parce que quand on monte des spectacles, des fois ça se passe bien, des fois ça passe pas bien.
Je vais péter la gueule au mec avec le marteau.
Alors quand ça se passe bien, on est content.
Ouais, et puis surtout là, ben, c'est inespéré, quoi. C'est même pas que ça se passe bien, c'est que ça se passe divinement bien. Les gens sortent de notre spectacle et puis on entend pas ou très peu de critiques négatives, ce qui est exceptionnel. Donc finalement, on a peut-être visé juste et puis c'est ce qui nous fait d'autant plus plaisir.
C'était un pari un petit peu difficile parce que évidemment, vous entrez dans vos personnages, des personnages que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà donné pour la revue. Mais c'était un pari un peu difficile de créer un spectacle complet sur une heure et demie.
Oui, c'était un pari difficile. C'était un plaisir aussi parce qu'on rentre dans ces personnages, on connaît bien ces personnages, on les aime, ils existent pour nous. Maintenant, il fallait les faire évoluer dans leur vie de tous les jours et trouver là-dedans comment ils vivaient, qu'est-ce qu'il y avait de drôle aussi à tirer de ça. C'est pas que drôle, hein, il y a aussi des moments, des passages où ils sont tendres, il y a des sentiments, il y a des fois c'est très cynique. Mais oui, c'était un gros pari et c'est ce qui nous a pris le plus de temps, je crois, dans le spectacle, c'est trouver au départ dans quelle voie partir, dans quelle direction partir. Une fois qu'on a trouvé ça, les choses sont sorties assez vite et on s'est bien amusé à le monter.
Bon voyage!
Oui, c'est ça exactement, bon voyage! Parce que moi, je vais m'amuser, messieurs, et oui! Il y a des lumières qui vont scintiller partout! Des déjeuners somptueux et plein de personnes pour s'occuper de moi! Et puis il y aura des machines à sous avec des femmes pleines de nichons que je pourrais toucher! Oui, messieurs! Messieurs, je ne vous salue pas! Au revoir!
Ce spectacle, c'était un peu un examen pour voir si ces personnages sont effectivement capables de dire tout et de se trouver dans n'importe quelle situation. Parce que finalement, dans la revue, on avait Ambroise, Fernand et Maurice qui allaient au spectacle. Là, on a Ambroise, Maurice et Fernand qui sont dans leur vie de tous les jours et on se rend compte qu'ils ont des choses à dire partout et que ces personnages-là sont à l'aise. Mmh. Et puis c'était vraiment un examen, si on veut, de créer un spectacle d'une heure et quart rien qu'avec eux, pour voir si par la suite on peut les faire évoluer dans plein de milieux différents.
Tous les goûts de l'humour sont dans la nature de notre pays. L'humour vache, le méchant, le poétique et même le musical, avec des groupes comme les Gais Lutrins, ensemble neuchâtelois, avec des musiciens de talent qui ont osé aborder la musique avec humour. En 1998, il présente « Musique d'antichambre ». Je vous propose un petit extrait enregistré à Saint-Aubin, à la Tarentule, en 1998.
Les Gais Lutrins, c'est Mouna Saïdjari au piano, Pierre-Henri Ducommun au violon, Mathieu Schneider à la flûte et Jean-Paul Jeanneret au violoncelle. Le point de départ et le fil conducteur du spectacle, c'est une audition. Pourquoi avoir pris ce point de départ?
Parce que l'audition, c'est la hantise des musiciens, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que, puisque dans notre monde actuel, tout se passe par audition, par concours, etc., en fait, c'est un point hyper important dans la vie d'un musicien. Mmh. En tout cas dans les musiciens d'orchestre, disons.
Ouais.
Et puis dans les petits groupes, donc c'était un bon prétexte de départ au spectacle.
Vous avez souvenirs d'auditions qui ont été parfois peut-être des galères pour vous ou des souvenirs particuliers?
Certainement, je pense que tous les musiciens en ont vécu quelques-unes. C'est effectivement quelque chose qui peut être douloureux.
Mais vous avez un souvenir particulier, Mouna, vous parlez d'une angoisse?
Oui, une audition, une virtuosité, un examen, etc. Quoi, j'entends ça, je trouve terrible quand même, parce qu'on peut avoir peur avant, pendant, puis après on est encore pas bien après. Je trouve que c'est terrible.
Mathieu Schneider?
Ça dépend de l'apéro, mais... Non, le trac, c'est les flopettes, c'est les genoux qui tremblent, et puis c'est la salive qui manque pour les flûtistes. Ça, c'est très embêtant, oui. C'est très pénible.
Ce qui est avec les Gais Lutrins, c'est que les Gais Lutrins n'ont jamais passé d'audition. Donc...
Ou alors, on peut parler d'une audition chaque soir devant le public, voilà, mais absolument. Une audition plutôt agréable, alors.
Tout à fait, oui.
Barbet. À Bob, il représente l'humour de Genève et de toute la Romandie. Sa spécialité, c'est les accents. Il a sillonné, c'est le moins que l'on puisse dire, tous les coins et les recoins de la Suisse romande. Il aimait être un simple raconteur d'histoires prenant tous les tics de langage, de Genève au Jura en passant par Fribourg, Neuchâtel et même la Suisse allemande. Il y a un côté pagnol chez Bob Barbet. En 1989, il nous invite chez lui à Vernier dans sa campagne genevoise qu'il aime tant. Je me souviens qu'il avait sorti tous ses souvenirs, des photos, des articles, des anecdotes. Bob Barbet, chez lui, c'était un véritable grand moment de bonheur.
D'abord, moi, je suis un campagnard genevois, j'aime la campagne genevoise. Je la défends pour avoir une certaine identité, évidemment. Et puis, quand on me dit « Oh, les Genevois, si ça... » Genève, moi, je ne sais même pas où c'est. La ville de Genève, j'y vais très, très rarement. Moi, j'ai rien à y faire. Tandis que là, dans ma campagne, je suis chez moi, puis c'est là que je peux sortir dehors et puis composer mes sketchs. Et puis trouver un peu d'inspiration.
Alors, en fin de compte, que dites-vous, mon cher vicomte? J'ai un nez. Un nez très grand. Ah bon? Et c'est tout? Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, ô Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, et surtout les accents. Par exemple, tenez, je ne vois. Ben moi, mes cols... Avec le tarin que j'en ai, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Avec ma grande gueule, il m'empêche de boire la tasse.
Comme j'ai été cafetier dans le village de Vernier quand même plus d'une quinzaine d'années, puisque j'ai tenu pendant 10 ans le Café de l'Étoile chez Bob, où j'ai monté des soirées cabarets qui sont restées mémorables dans le coin. J'ai fait par exemple des nuits du 31 décembre, je t'explique pas, des choses incroyables j'ai fait dans ce bistrot. Alors évidemment, t'as trouvé là tout à l'heure des gens qui ont participé à cette vie. Et puis peut-être bien qu'ils ont l'esprit Bob Barbet, pourquoi pas.
Neuchâtelois, est-ce une pendule qui est la maladière ou boîte à ciseaux? Franchement, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à vos petites pattes? Votre nez est aussi tortueux que la vue des Alpes. Si j'ai la labrévine, faudra bien qu'un jour on le scalpe.
Je pense qu'on est déjà un peu comique de nature. Hein. Faut pas rêver. Y en a qui disent, vous faites, c'est fabuleux. Vous arrivez à faire rire les gens. Mais je pense que là, on a quand même un petit don qui vient de naissance. Et puis voilà, on arrive à le développer. Quand on commence à faire le dingue à 5-6 ans pour faire rire les petits copains de la classe, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça continue pas.
Et d'ailleurs, ça vient d'une envie de faire éclater ses copains de rire ou de...
Oui, ben c'est ça, hein, c'est ça la recette. On dit que la recette du comique qui marche à fond, c'est indiscutable quand on raconte, quand on fait un gag et qu'on arrive à faire rire le professeur d'université et le balayeur en même temps, c'est-à-dire au même millième de seconde. Alors c'est là qu'on a gagné. C'est pour ça des fois on me reproche que tu n'atteins pas les sommets de la finesse, etc. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est d'avoir devant moi des gens qui se marrent. Point.
L'accent suisse. Parmi les premiers à l'amener à Paris, il y a eu Gilles, bien sûr, il y a eu Pierre Dudan. Et dans ceux qui ont suivi, il y avait Alain Chevalier et Fernand Berset. Ils vont faire un grand succès à Paris, au théâtre d'Edgar, dans le spectacle « Deux Suisses au-dessus de tout soupçon », faisant référence au livre de Jean Tsigler. Le disque est édité chez Barclay, ce qui prouve que l'arrivée de ces deux Helvètes dans la ville lumière ne passe pas inaperçue.
Mesdames et messieurs, je voulais vous entretenir d'un problème ô combien important, mais hélas méconnu. Je voudrais vous parler du chocolat suisse en général et du chocolat Splins en particulier. Splins, le chocolat aux 1000 vitamines. Mais ça, c'est un slogan, alors je place comme ça, oui, profite. Mais parce que si je vous en parle, c'est quand même en connaissance de cause, vu que c'est mon père qui est directeur technique chez Splins. Mais parce que mon père, s'il a choisi la carrière du chocolat plutôt que celle des montres ou de la banque, c'est plus par vocation que par un effet du hasard. Mais parce que mon père, il dit toujours, la Suisse, c'est le symbole de l'ordre, puis le chocolat, c'est le symbole de la Suisse.
Les archives du rire.
Alain Chevalier.
Précisément, ce sketch-là était dit par mon acolyte, parce que ça s'appelait... Oui. Non, écoutez, d'abord...
C'était sur le disque des deux Suisses au-dessous de tout soupçon.
Absolument. Ou vous étiez pas né, on vous a raconté, ou alors, parce que c'est ancien, ça.
Mais
alors,
collection de disques.
Vous avez le disque, très bien. Ah, c'est vous qui avez acheté le disque. Non, à l'époque, écoutez, c'était un 30 centimes, on l'avait bien vendu parce qu'on passait dans une émission qui s'appelait Alors Raconte, qui consistait à raconter des histoires drôles. Et alors moi, j'en racontais avec mon accent vaudois très mauvais, ce qui a fait du reste une sorte de polémique, parce que moi, je prenais ce qu'on appelle l'accent suisse, qui est une invention des Français. L'accent suisse, c'est une invention des Français, c'est un truc passe-partout que les Français ont inventé pour faire un accent. On sait bien, nous les Suisses, on sait bien qu'il n'y a pas d'accent suisse, il y a un accent tous les 10 kilomètres. On sait bien qu'entre déjà entre les villes vaudoises, mais enfin entre Lausanne et Genève, alors toi, mon accent... que je prends bien, puisque c'est mon accent, c'est l'accent genevois, ça je le revendique, y a pas de problème, dieu. Mais comme l'accent vaudois, l'accent genevois ressemble beaucoup à l'accent lyonnais, pour les Français, faut prendre l'accent suisse, c'est-à-dire une sorte d'accent vaudois, machin, qui va... Et donc, très vite, on m'a accusé plus ou moins de pas avoir le bon accent. Je n'ai jamais dit que je faisais un spectacle vaudois. J'ai dit que je faisais... On a dit qu'on faisait de l'humour, pas de l'humour suisse, de l'humour sur la Suisse, qui n'a rien à voir, c'était à l'usage des Français exclusivement. Ça parlait du chocolat, des lingots d'or, et ça n'avait rien à voir du tout avec de l'humour suisse, ce que faisait magnifiquement Gilles, de Gilles et Urfer, que faisait magnifiquement beaucoup de gens.
À Paris, avenue de l'Opéra, tout près de la boîte que j'avais au coin de la rue de l'Échelle, il y a une circulation intense un soir vers 6 heures, et il y a un gars qui est là sur le trottoir, rive gauche, et qui voudrait bien passer sur l'autre, mais il n'y a pas moyen de passer, les autres circulent sans arrêt. Il aperçoit un copain de l'autre côté, sur l'autre trottoir, et il dit « Hé, Toto, comment t'as fait pour traverser ?» Il dit « Je suis né ici
!» Tous mes copains qui dirigent des théâtres en Suisse ne le voulaient pas. Ils disaient « Non, ça fera jamais rire en Suisse. Non, t'es bien gentil. » Ce qui fait que on a loué des salles tout le long de la frontière, à Annemasse, puis après à Saint-Julien, près de Genève, et après tout le Jura. On n'est pas rentré en Suisse. Et tous les Suisses sont venus. À Annemasse, on a eu la plus belle critique. Il y a le critique du journal de la Suisse qui a dit « Écoutez, je ne pouvais pas parler de ce spectacle. J'ai essayé de rentrer. Je n'ai même pas pu. Il y avait une émeute à l'entrée. » Ce qui était la meilleure critique qu'on a jamais eue. C'était formidable. Et là, à Vevey, pas loin d'ici, puisqu'on est à Montreux, on a loué à nos frais une salle à Vevey à l'époque. On a pris une salle à Vevey, une date, une seule. C'est une salle, la grande salle de Vevey, je ne sais plus laquelle, doit avoir 800 places. On n'a joué qu'une fois, on a eu 15 rappels. Et là, tous mes potes, alors là vraiment, j'aurais claqué la gueule, j'aurais dit, voyez, ça ne marche pas. On a eu 15 rappels. Ah ouais, alors maintenant, on est d'accord, t'as voir. J'ai dit, mais maintenant, on ne veut plus venir.
Alors, il n'y a qu'une sorte de chocolat qui le rend fou, mon père, c'est le chocolat aux noisettes. Mais parce que les noisettes, on n'arrive pas à les mettre en ordre dans le chocolat. C'est un vrai fouillis. C'est soit toi à gauche, soit toi à droite. Vous touchez les plaques, ça fait les bosses. C'est énervant, ça.
Les archives du rire.
Cabaret chaud, on n'est pas chaud. Un fruit de babelou, les chauds lapins. Car nous on est des artichauts. Au cabaret chaud, on vous sert du tourago gauche, ni du baba. On vous sert du tourago gauche, on vous sert du tourago gauche. Cabaret chaud, c'est.
S'ils ont connu un moins grand succès lors de leur passage à Paris, le cabaret Chaussette s'est fait une belle part en Suisse romande. Rencontre avec Yanis Kyriakidis et Michel Sapin. Albert Vial, lui, pendant ce temps, faisait ses comptes. Mais on a rencontré les artistes en 1993 à l'occasion des 20 berges du cabaret Chaussette. Le temps de parler du début de ce cabaret un petit peu particulier dans les années 70, où ils étaient parfois jusqu'à une bonne douzaine à débuter dans la poésie, la chanson et l'humour, et surtout dans la campagne fribourgeoise.
On se retrouvait une bande de jeunes, une bande de copains, et puis le cabaret est né un petit peu au hasard, justement, de rencontres de gens qui avaient envie de faire autre chose que de simplement aller boire des coups dans les bistrots, puis voilà. Et il s'est trouvé que parmi ces gens, il y avait des musiciens, des chanteurs, des comédiens, des diseurs, des humoristes, enfin, en herbe, hein, et qui tâtaient un petit peu de tous ces gens-là, puis voilà. Mais enfin, si on veut faire vraiment de l'histoire précise, le tout début, enfin les premiers pas du cabaret, alors qu'il s'appelait encore pas Cabaret Chaussette, on peut situer ça dans la petite bourgade de Boyon, dans la Broye, hein, que tout le monde connaît, enfin je pense, moi. Ouais.
Et puis on pourrait, disons, conseiller aux amis d'acheter le livre qui vient de sortir, La Chaussette en carton, livre qui est d'ailleurs en vente partout. Je conseille à tous ceux qui sont amis du cabaret je rappelle le titre, La Chaussette en carton, chez Fayard, aux éditions Qui peut.
Ma TV, j'ai de la peine à le dire. J'ai proféré des menaces.
Qu'as-tu dit ?
J'ai dit, Charogne de TV toujours en panne.
Sache bien, mon téléspectateur, que ma lumière ne t'abandonnera jamais.
que les dérangements techniques sont dus à ton manque de foi en moi. D'ailleurs, mon commandement dit, tu ne blasphémeras pas. Pour ces gros mots, tu suivras dorénavant mes pauses et mes interludes sans broncher et sans maudit. Est-ce tout ?
Non, ma TV, je n'ai pas suivi ton commandement. Utiliser le nouvel Ajax, vitre claire, vitre propre. Car j'en ai pas acheté.
C'est pourtant si simple, mon téléspectateur. Tous mes commandements te parviennent en musique et leur force de persuasion est telle que tu ne peux t'éloigner du droit chemin.
Ma TV, je n'ai pas très bien compris.
Augmente le volume, mon téléspectateur. En guise de pénitence, tu laveras chaque soir ma face souillée avec Ajax Ammoniac Plus. Ainsi, mes commandements t'apparaîtront plus clairs.
Au tout départ, on était, oh mon Dieu, 10, on a été même 12, 13, je crois pas, peut-être une fois. Et bon, il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis et tout. Et au moment où on a décidé vraiment de faire un spectacle, parce que le Aboyon, là, en fait, c'était une animation qui est née dans un gag, en quelque sorte, où nous étions annoncés dans une soirée privée.
C'était une soirée donc, du vélo-club de la Broye, la pédale Broyarde, et j'arrive, je dis au tenancier, je dis, écoutez, on vient pour les attractions. C'était pas du tout vrai, les gens qui étaient avec nous, les copains, tout ça, ça n'avait pas du tout, on avait juste une guitare, il n'y avait même pas de piano, je crois, là-bas. Mmh. Et le patron me dit, écoutez, c'est bizarre, on n'a pas invité de gens, personne ne m'a rien dit, il va se renseigner auprès des membres du comité, etc. On dit, non, il n'y a rien, tout. Puis je dis, écoutez, vous êtes un malhonnête, samedi soir, on est là, on aimerait quand même, on est occupé, mais on fait quelque chose. Puis il me parle du cachet, je dis, écoutez, c'est rien, c'était simplement qu'on pouvait boire à l'œil. Ah, pas de problème, ok. Alors, faites vos numéros. Et là, il y avait encore toute l'équipe de base, Kik Terrapon, Dominique Bechler, Jacques Reinhardt, pour ne citer que les Staviaquois, les Broyard, Guy Sansonnance, bien sûr, pas l'oublier, parce que Guy, c'était un pionnier. Et puis, bon, c'est une soirée très, très amusante, très sympathique. Et puis, à la fin, le patron vient vers nous et me dit, mais non, je sais, c'est le président qui n'était pas là, qui m'a téléphoné et qui m'a dit que vous étiez là. C'était pas vrai, c'était pas du tout faux, c'était archi faux. Mais c'était après notre passage, et puis après, donc nous avons créé un petit cabaret à Estavayer-le-Lac, à l'hôtel du Château, à l'époque animé par un type qui était merveilleux, qui s'appelle Poulvert, monsieur Poulvert, Michel Poulvre.
Et on a bénéficié en tout cas de l'enthousiasme et de l'énergie de Michel Poulvert, qui nous a engagé, c'est notre premier engagement. Engagement avec un cachet payé, parce que à Boyon, le cachet, c'était quelques litres de blanc, oui.
Et de rouge, c'est moitié-moitié, c'est ça.
En guise de pénitence, tu diras chaque soir avant mes émissions de Notre TV, disons avec ferveur et conviction, le Notre TV.
Notre TV qui est devant nos yeux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au rez-de-chaussée comme au premier. Donne-nous aujourd'hui notre feuilleton quotidien, pardonne-nous nos défaillances comme nous pardonnons tes dérangements techniques, et ne nous laisse pas succomber à l'inhibition, mais délivre-nous des disputes familiales. Amen.
Contrairement à certaines idées reçues, nous savons rire en Suisse et nous avons un sens de l'humour bien aiguisé. Dans cette série consacrée à nos archives du rire, je ne voulais pas passer à côté de ce document inédit. Adolphe Ogui, 98e conseiller fédéral de 1988 à 2000. En juin 89, il est présent à Morges à l'occasion du Salon du dessin de presse. Une exposition lui est consacrée avec de nombreuses caricatures et dessins le représentant lui et son nez imposant. Et voici un extrait de son discours lors de l'inauguration de ce salon du dessin de presse.
La caricature, ce devrait être une affaire de pattes. Il me semble que c'est plutôt une affaire de nez. En effet, si l'on regarde ce dessin paru à l'occasion du Salon du Livre de Genève, il semble vraiment que c'est l'organe principal du dessinateur de presse. Au fond, je suis des vôtres, en tout cas pour l'appendice nasal. Vous voyez ? Plutôt que de parler à bâton rompu de caricature et de politique, je devrais vous lire la triade des nez de Cyrano. Mais comme suisse allemand, vous comprenez, je la lirai mal
Très mal. Je ne fais du théâtre qu'au Parlement, mesdames et messieurs.
Ah, il y en a encore beaucoup, hein, des humoristes suisses. Les Jurassiens, que l'on a déjà entendus lors d'une autre émission, les nouveaux Thomas Wiesel, Jesse Cobel, Nathanaël Rochat et tant d'autres. Et puis il y a François Sylvan qui lui arrivera dans une prochaine émission, Marie-Thérèse Porchet également. Et puis il y a Thierry Murie, comédien avant tout. Puis il s'est lancé dans le one-man show avec l'ascenseur pour les chapeaux. On l'a vu à la télé, entendu à la radio, bien sûr. En fait, Thierry Murie, c'est avant tout un amoureux des mots et un homme de plume. On en parlait avec lui lors de la sortie de son CD enregistré en 1998 au Petit Musical à Genève. La rencontre avec Thierry Murie se fait sur une terrasse, évidemment, à Delémont.
Si j'écrivais pas, je pense pas que je ferais cette profession. Je serais ni comédien, ni je ferais pas de théâtre, je ferais rien. Parce que finalement, c'est grâce au fait que j'écrivais mes propres textes que j'ai pu me lancer dans la carrière. Sinon, j'aurais jamais rien fait sans écrire. Quoi. Mes propres textes, d'accord, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer.
Et le motif de mon spectacle est justement le motif de mon spectacle. Ou si vous préférez, ce qui m'a amené à écrire ce spectacle, c'est que justement, je ne savais pas ce qui m'a amené à écrire ce spectacle. Mais car attention, le motif n'est pas le sujet. Le motif de votre spectacle n'est pas forcément le sujet de votre spectacle. Le motif, c'est ce qui porte à faire quelque chose. Le sujet, c'est ce quelque chose. Bon, si on a trouvé le sujet, c'est déjà quelque chose. On peut trouver un sujet sans motif. Même si à l'instant où je vous parle, le motif est le sujet.
Mais tu écris beaucoup, il y a souvent des moments où même tu te retrouves seul comme ça, tu serais seul sur la terrasse aujourd'hui, tiens, une idée te vient, tu écris ou tu es plutôt quelqu'un qui doit rester tranquillement dans un coin chez toi pour commencer de pondre des textes?
Non, j'aime bien les endroits publics justement, le bus, les transports publics, le train, les terrasses, mais être tranquille, une terrasse au soleil, à observer les gens qui passent comme ça, même si ça n'a pas de rapport direct avec ce que je suis en train d'écrire, du moins ça me laisse l'esprit comme ça, vagabond, et ça me permet d'écrire des trucs, toutes sortes, parfois, c'est même pas des trucs comiques, parfois c'est un petit texte comme ça, un peu mélancolique, tout à coup, alors je le garde peut-être pour moi, ou j'en fais autre chose, mais c'est là que je trouve mon inspiration, mais souvent dans les endroits publics, mais bien sûr seul, dans un endroit public, je peux pas faire ça avec quelqu'un en face.
C'est quand je suis arrivé à la fin de mon spectacle, que je me suis rendu compte que le sujet de notre dispute avait été le seul sujet de mon spectacle. Et que je me souvenais plus pour quel motif. C'est seulement après, au bar, qu'un spectateur qui n'a pas compris le motif de tout ce spectacle autour du motif de mon spectacle m'a fait comme ça, dites donc, une heure et quart autour du motif de votre spectacle, vous auriez pu vous contenter de nous dire que vous ne saviez pas ce qui vous amenait à nous dire tout ça, et en quelques mots, l'affaire était classée. Alors je lui ai expliqué qu'en fait, je ne pouvais justement pas classer l'affaire comme ça, parce que on me paye pour faire un spectacle qui dure un certain temps. Que c'est avec ça que je gagne ma vie. Et que gagner ma vie, c'est ça, le motif de tous ces mots au sujet du motif de mon spectacle.
Je voudrais terminer cette émission avec le clown suisse qui est si cher à notre cœur. Dimitri, qui nous a quittés en 2016 à l'âge de 80 ans. Toute sa vie, il l'a consacré au monde du clown, de la poésie et du rire. Le 14 mars 1986, je le rencontre à Neuchâtel lors de l'un de ses spectacles. À la fin de l'interview, je lui ai demandé de me donner sa définition du rire. Dimitri.
Mais tu vois, on en a beaucoup parlé et écrit sur ça. Et une chose est certaine, que le rire est vraiment propre de l'homme, ça on le sait. Enfin, il n'y a que l'être humain qui sait rire. Et malheureusement, pas tout le monde sait rire bien. Ça c'est peut-être dans quelques personnes malheureusement perdu un peu, mais aussi il y a de quoi, le monde actuel, les drames qui se passent et le futur assez noir. Mais je trouve qu'il est tellement important le rire et l'humour qu'il faut absolument le conserver. Et puis tu me demandes de définir... l'humour ou le comique, c'est pas facile. Moi, je crois qu'il est provoqué par des situations comiques, mais c'est-à-dire des situations de contradiction, d'absurdité, d'inattendu, mais aussi de maladresse, de innocence, de fantaisie. Et c'est ça qui surprend les gens et qui les fait rire. C'est l'inattendu, mais en même temps, un comique doit toujours être humain et pur. Enfin, du moment où il est méchant, où il est agressif, l'humour s'en va. Et bon, là, on pourrait en parler des heures sur la philosophie du clown. Mais, enfin, j'insiste, il faut absolument le conserver. Et moi, je suis heureux. Plus il y a des clowns, mieux ça ira au monde. Et il en faut. Et ça serait très, très triste si dans le futur, il n'y avait plus de clowns ou les gens ne riraient plus. Enfin, ça serait, pour moi, presque la fin du monde.
Dimitri, Alain Chevalier, le Cabaret Chaussette, Bob Barbet, Thierry Meury, Les Peutch, Les Guy Lutrin, rencontrés un petit peu partout. À Neuchâtel, Saint-Aubin, Delémont, Montreux, Le Mouret dans le canton de Fribourg, Vernier dans le canton de Genève, sans oublier le discours de monsieur le conseiller fédéral Adolphe Augy à Morges. Ces archives uniques et inédites datent de 1988 à 1999. Tous ces artistes prouvent donc que l'on sait rire dans notre cher pays, et l'émission pourrait encore durer des heures et nous n'en aurions pas encore fait le tour. Mais nous reviendrons pour vous présenter d'autres archives, d'autres rencontres et d'autres moments d'humour. Au revoir et à bientôt.